selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue pour ce sixième épisode d'Efrika, le podcast du football africain de la rédaction de Lucarne Opposée. Vous connaissez la rengaine, vous connaissez le chemin à suivre, hein, ne soyez pas timide et venez interagir avec nous sur Facebook, Twitter, YouTube et tous les réseaux sociaux sur lesquels on se trouve, c'est-à-dire en fait les trois que j'ai cités. Nous remercions en tout cas tous nos fidèles qui toujours relaient notre travail, vraiment les amis, merci à tous, merci beaucoup. Pour ce sixième Africain, on retourne du côté de la Ligue des Champions d'Afrique, comme pour le dernier podcast, mais cette fois-ci pour débriefer la dernière phase préliminaire qui a livré son verdict, sans oublier quelques surprises pas piquées des hannetons. Mais qui va piano va sano, alors jetons d'abord tranquillement un œil au courrier Quinfri. Trêve internationale oblige, les rassemblements de sélection vont bon train. C'est le cas par exemple des éléphants de Côte d'Ivoire qui se sont tous réunis à Beauvais en vue d'affronter le Togo puis la Moldavie sur le sol français. Tous ? Eh bien non, il en est un qui manque à l'appel et pas n'importe quel puisqu'il s'agit du monumental Yaya Touré. Le brother de Kolo était sorti de sa retraite internationale pour, selon ses dires, aider la prochaine génération. Ibrahim Camara, sélectionneur de son état, l'a donc logiquement retenu pour les rencontres citées plus avant. Sauf que la fédération a déclaré être sans aucune nouvelle du capitaine des champions d'Afrique 2015. La presse anglaise évoque tout de même des raisons familiales. Il devrait pourtant le savoir depuis le temps, hein, un éléphant, ça trompe énormément. Côté Ligue 1 ivoirienne, la SEC Mimosa est sereinement installée en tête du classement, 8 et 9 points devant le SC Gagnoa et le Bouaké FC. C'est poursuivant, le tout avec 3 matchs de retard, rien que ça. Rien ne va plus chez les Diables Rouges du Congo-Brazzaville, où Thierry Bifouma a claqué la porte de la sélection en dénonçant l'amateurisme de la fédération suite à l'annulation de l'unique amical face à la Guinée-Bissau prévue initialement en France. Le joueur de Sivasspor précise que le staff technique n'est en rien responsable de ce micmac, mais qu'il s'agit bien d'une totale ingérence du ministère des Sports qui aurait finalement refusé de participer aux frais d'organisation, entre autres choses. Ah, et puis les joueurs se plaignent également de primes non versées, maladie chronique. Du remue-ménage, il y en a également au Maroc. Le milieu offensif d'Al Rayyan, au Qatar, Mohsin Metouali, accusèrent Vérenard de monnayer les places en sélection en échange de cadeaux. Des propos lourds de sens auxquels a répondu la chemise la plus cintrée du continent, menaçant également le mutin de poursuite. Cela fait 10 ans maintenant que je suis en Afrique et aucun joueur ne peut affirmer avoir été sélectionné sans que cela ne tienne de ma seule responsabilité sportive. La corruption ne fait pas partie de mon vocabulaire ni de mes pratiques. Mon intégrité me suivra jusqu'à la fin de ma carrière, quelles qu'en soient les conséquences, a affirmé le double vainqueur de la CAN. On n'accuse pas Renard d'être chenapan comme ça. Dans le Botola, Tanger mène la danse, talonné par Agadir qui accuse un retard de 2 petits points seulement. À 5 longueurs du leader, le Raja Casablanca ferme le podium et reste en embuscade. Puisque l'on est sur les accusations de poids, restons-y. En Tunisie, le président de l'ES Beni Khaled, Makrem Tajouri, a déclaré avoir été approché en début de saison par 2 arbitres, Atef Yacoubi et Yassine Harouche, qui lui auraient promis la montée de son club en Ligue 2 en échange d'une somme d'argent. La fédération tunisienne a nommé une commission spéciale pour faire la part des choses sur cette affaire avant de la transmettre à la justice. Affaire à suivre donc. Du côté du championnat, l'Espérance reste confortablement installée en tête des charts, à 8 unités de son dauphin, le club africain. L'Étoile du Sahel occupe la 3ème place qualificative pour la Coupe de la CAF que lui dispute le club sportif sfaxien, distancé actuellement de 2 points. Une Coupe de la CAF dont les 16e de finale sont désormais connues, sans aucun prétendant tunisien d'ailleurs, taux de sortie en 32e. Un dernier tour de qualif avant la phase de poule qui offre notamment de grosses affiches. Un alléchant Zanaco Raja, un émoustillant Plateau United USMAG, ainsi qu'un ASEC Mimosa Belouizdad plutôt intrigant. À propos de Coupe Continentale et de tours préliminaires, on est là pour débriefer sur la Ligue des Champions, non? On y va? Allez, on y va. We'll be right back.
Débutons donc ce débrief de la dernière phase préliminaire de cette Ligue des Champions d'Afrique. Commençons là par le Nord, par le Maghreb et l'Égypte. Et généralement, quand on parle football du Maghreb sur Lucarne Opposée, on accueille Farouk Abdou. Comment vas-tu, Farouk ?
Bonsoir Simon, bonsoir à tous les auditeurs des Frikia, ça va très bien. Maintenant que les tours préliminaires sont enfin finis et qu'on connaît les 16 membres de l'élite africaine pour cette année, on va se lécher les babines en attendant que le tirage au sort nous donne les poules.
Très bien, bah écoute, on va commencer par le nord-est de l'Afrique, par le monstre hein, de continental qu'est le Al Ahly, hein, monstre même mondial en termes de trophées, de palmarès, qui s'est, ma foi, qualifié relativement aisément, voire très aisément, face au Mounana. C'est bien ça.
Exactement, contre les Gabonais du CF Mounana.
Voilà, donc oui, 7-1 score cumulé, 4-0 à l'aller, 3-1 au retour. Easy peasy, comme diraient nos chers Américains.
Exactement, Al Ahly avait déjà pris une grosse option dès l'aller en mettant 4-0 aux Gabonais de Mounana, qui généralement, même s'ils font des petites apparitions régulières à ces stades de la compétition, ont toujours tendance à se prendre un mur en termes de niveau, toujours soit à l'oreille des phases de poule en Ligue des Champions, soit en phase de poule en Coupe de la CAF. Mais le plus important pour Al Ahly n'a pas été la qualification, c'est surtout ce qui s'est passé dans les coulisses au cours de la semaine écoulée. Alors entre les deux matchs, c'est-à-dire avant le match retour au Gabon, Al Ahly a fêté son 40e titre de champion, donc a pu effectuer les festivités avec sérénité avant de se déplacer au Gabon. Mais ce qu'on va retenir aussi, c'est qu'après le match retour, l'entraîneur El Badri, on va dire, envoyait un message à ses dirigeants en disant que pour être compétitif à partir de la phase de poule, il était nécessaire qu'Al Ahly se renforce, en particulier au niveau défensif, et signe quelques joueurs pour pouvoir vraiment prétendre être compétitif en Ligue des Champions sur tous les compartiments de jeu. Alors il arrive que...
J'ai déjà une question, parce que je ne sais pas, je n'ai pas regardé ça. Est-ce que, parce qu'il me semble que les matchs de poule commenceront en juin, si je ne me trompe pas.
Il y a deux journées en mai, et ensuite on coupe, et ensuite on reprend après le
après la Coupe du Monde. Donc on coupe pour la Coupe du Monde. On coupe pour la Coupe du Monde. Parce que autant certains autres pays qualifiés n'ont pas autant de joueurs qui viennent du cru, autant le Al Ahly fournit assez bien les pharaons, donc ça aurait été une grosse perte. Mais du coup, le championnat est coupé. Enfin, cette compétition est coupée.
Ah ben, c'est important que ça ait été le cas, parce que sinon, pour beaucoup de pays dont le réservoir local représente les principaux pourvoyeurs des clubs, les clubs peuvent perdre beaucoup de force de frappe si jamais les joueurs sont au mondial. C'était quand même logique, aussi bien pour la Tunisie et l'Égypte, parce que qui sont directement concernés, que leurs joueurs puissent être à disposition juste après la Coupe du Monde pour continuer la phase de poule de Ligue des Champions.
Très bien, très bien. Alors excuse-moi, je t'ai coupé, tu avais une deuxième info sur le Al Ahly.
Alors, Al Ahly a toujours 6 ou 7 joueurs prêtés, soit ceux qui sont récemment partis en Arabie Saoudite, mais qui ont pris soin de prolonger leur contrat avant de partir, soit ceux qui sont prêtés dans des petits clubs en Égypte pour s'aguerrir. Ça, c'est pas un problème pour le Al Ahly de les rappeler et pouvoir compter sur eux en cas de besoin sur la saison suivante. Mais il y a peut-être un cas de figure qui va être problématique pour Al Ahly, c'est l'incroyable imbroglio de leur meneur de jeu Abdallah El Saïd, qui a marqué un doublé au match aller contre les Gabonais de Mounana, a été dispensé du voyage au Gabon pour le match retour, et il a été annoncé à la surprise générale en instance de transfert au rivaux du Zamalek. C'est une info qui est sortie et qui avait surpris tout le monde. Au dernier moment, El Ahly a coiffé Zamalek au poteau en re-signant une prolongation de contrat avec El Saïd, mais dans des conditions pareilles, quand vous avez failli filer au rival et que vous êtes obligé, entre guillemets, quand même moyennant finance, de rester dans votre club, les supporters ne sont pas prêts de digérer ça tout de suite. Et actuellement, El Saïd, qui est en sélection égyptienne pour les matchs amicaux des Pharaons, peut finir n'importe où, c'est-à-dire soit rester à Al Ahly dans une situation intenable, soit toujours être soufflé par le Zamalek, soit un prêt au golf pour calmer le jeu, mais il est très possible que El Saïd ne rejoue plus avec Al Ahly et ça peut être un manque important en vue de la phase de poule de Ligue des Champions.
Très bien. Le Al Ahly donc qui reste sera toujours d'office un favori et dont la présence en phase de poule est assez impensable. Je te propose de glisser un petit peu à l'ouest de l'Égypte et de passer ma foi à un club qui t'est cher, l'Étoile du Sahel, équipe de Sousse. Qui s'est qualifié, on avait briefé, hein, on avait parlé déjà de sa confrontation lors du dernier Africa, qui s'est qualifié, ça a été serré face au champion nigérian en titre, le Plateau United. C'est passé, mais 4-3 scores cumulés, ça n'a pas été facile.
La dynamique de cette double confrontation a vraiment connu des rebondissements très importants. Les Nigérians de Plateau United avaient complètement raté leur entame de match à l'aller. Ils avaient pris 3 buts en 8 minutes. À ce moment-là, on pensait que l'Étoile s'était vraiment facilité la tâche et était bien parti pour encore coller le maximum de buts pour faciliter le match retour au Nigeria. Ils s'étaient un petit peu endormis sur leur laurier à 4-0 et Plateau United a fait rentrer un gamin de 18 ans, Peter Aneji, qui a complètement retourné le match et qui a permis aux Nigérians de revenir à 4-2, ce qui a totalement changé la manière de voir le match retour parce que en étant éliminé à 2-0, la tâche était un petit peu plus compliquée pour l'Étoile du Sahel. Comme prévu, le match retour a été très dur. Quand on voit la deuxième mi-temps, on voit que l'entraîneur algérien Madoui commence à vraiment inculquer le style de jeu qui faisait Sétif en Algérie, c'est-à-dire profiter au maximum des contre-attaques et vraiment sortir vite. Mais les Tunisiens ont beaucoup gaspillé des contre-attaques justement quand ils étaient menés 1-0 au Nigérien, qu'ils étaient à un but de l'élimination. Et ça a été très très chaud dans les dernières minutes. Ils étaient pas très loin d'encaisser un deuxième but qui aurait pu les sortir. Alors une deuxième élimination juste avant la phase de poule en 3 ans a été fâcheuse, mais ça passe de justesse pour l'Étoile du Sahel.
Ça passe et en championnat, il me semble qu'ils sont le titre ou l'espérance est trop loin, je ne sais plus.
Ils sont trop loin pour le titre. En ballotage défavorable pour la deuxième place qualificative pour la Ligue des Champions. Malgré tout, je reste quand même satisfait des premiers mois de l'entraîneur algérien Khairedine Madoui, mais si l'Étoile venait à s'arrêter tôt en Ligue des Champions et qu'il n'y a pas la deuxième place pour assurer la présence en C1 l'année prochaine, ça peut commencer à devenir compliqué pour lui.
Impératif de résultat, donc. Et bien, ma foi, on était l'Espérance Tunis, qui est le second club tunisien en course dans cette Ligue des Champions africaine, dont on avait également évoqué hein, le tour préliminaire qui se jouait contre les Éthiopiens du Gor Maya. Et l'Espérance Tunis part-elle largement favori, hein, a priori, face aux Éthiopiens. Ils se sont qualifiés petitement,
les Kenyans,
avec un tout petit but. Kenyans, pardon, autant pour
les
moi.
Les Kenyans, très cher.
j'ai confondu les drapeaux. Oui, c'est vrai que c'est vert, blanc, rouge, l'Éthiopie, et que là, c'est le fameux drapeau avec le bouclier, comment s'appelle ?
Maasai.
Maasai, avec le fameux bouclier Maasai. Et donc, Kenyans, le Gor Maya du Kenya, autant pour moi. Et donc, c'est passé petitement pour les espérantistes qui se sont qualifiés d'un tout petit but.
C'est certainement les duels sur 5000 mètres et 10 000 mètres qui t'ont induit en erreur, sans aucun doute. Concernant la double confrontation entre l'Espérance et le Gor Maya, on en avait un petit peu parlé dans le podcast précédent. Je m'attendais à ce que le match aller soit compliqué au Kenya et finalement, ça n'a pas été très loin de la vérité. L'Espérance sur un terrain vraiment qui ne permet pas une pratique d'un jeu fluide et léché, a d'abord tenu à rentrer du Kenya sans blesser et ramener un résultat le moins négatif possible. Le 0-0 ramené aurait dû permettre, sur le papier, à l'Espérance de finir le boulot en toute sérénité à Rades, mais ils ont finalement beaucoup plus pioché que prévu. Il y a eu beaucoup de tensions parce que les Kenyans le banc kenyan a reçu des projectiles. Il y avait beaucoup d'hostilité et d'agressivité des deux côtés. L'Espérance s'en sort grâce à un but de Badri, mais les Kenyans qui ont réussi à transmettre cette agressivité sur le terrain en étant accrocheurs et vraiment bien positionnés sur le terrain, auraient pu, s'ils avaient été un petit peu plus ambitieux dans le jeu et un peu plus en mesure de finir leurs actions, ils auraient pu décrocher le 1 partout, et là, ça aurait été le coup de tonnerre, on va dire, ça passe pour l'Espérance de Tunis, mais on s'attendait à ce que ce soit un peu plus facile que prévu.
On n'est pas passé donc loin de l'exploit, pardon. Est-ce que l'Espérance ne s'est pas un peu vu trop beau, n'a pas pris un petit peu son adversaire par-dessus la jambe?
Absolument pas. C'est, je pense, plus dû difficulté du début d'année où l'Espérance a eu du mal à se situer, a perdu pas mal de points en championnat, qui les a un petit peu crispés pour vraiment finir le boulot. Il y a toujours beaucoup de problèmes défensifs. Ils avaient pas pris le match par-dessus la jambe aussi lors de la double confrontation contre l'équipe mauritanienne qui leur avait quand même posé du souci au match aller. Là, il y avait pas de démarche consistant à prendre le match par-dessus la jambe. En plus, le match aller, le 0-0 était très difficile. Gormaya aurait pu gagner. Malgré la qualité du terrain, l'Espérance s'en sort bien. Il n'y a pas eu de...
Il n'y avait plus l'effet de surprise. Ils savaient du coup à quoi s'attendre en termes de niveau de la part des Kenyans.
D'une part, et puis surtout quand même, même si les générations se renouvellent, c'est un club qui a quand même une grande tradition en Afrique. Et ils vont pas être du genre à prendre à la légère une confrontation qu'il faut finir après avoir amené un 0-0 de l'année. C'est pas le genre.
Très bien. Eh bien, écoute, continuons et attaquons-nous. On va pas glisser totalement à l'ouest, on va sauter l'Algérie pour y revenir après. Et on va aller au Maroc pour parler du match de qualification du tenant du titre, le Wydad Casablanca, qui s'est imposé au score cumulé 7-4 face aux Ivoiriens de Williamsville. 7-4 avec un 7-2 à l'aller. Disons que la messe était dite avant le retour.
Eh ben, c'est allé vite, mais selon un cheminement d'action qui n'était pas tellement prévu, parce que certes, il y a eu 7-2, mais les Ivoiriens du WAC avaient accroché l'Oïdad lors de la première mi-temps. Il y avait 2-2 à la mi-temps. Alors, ce que j'avais dit un petit peu sur le ton de la rigolade au moment où l'Oïdad a commencé à marquer plein de buts en deuxième mi-temps, c'est que les fautifs des deux buts ivoiriens allaient certainement se faire sonner les cloches par l'entraîneur tunisien du Wydad, Faouzi Benzarti, et qu'ils avaient intérêt à ce que ça finisse à 11, 12, 13, 2 pour qu'ils puissent échapper à une sanction mémorable. En définitive, le 7-2 avait quasiment tout soldé, et j'imagine que le Wydad est complètement tourné vers autre chose, c'est-à-dire ça au monté en championnat. Pour rappel, avant l'arrivée du coach tunisien Faouzi Benzarti, le Wydad était quasiment relégable à la fin de la phase aller. Commençait une remontée intéressante à la cinquième place à quelques points du podium et avait un petit peu trébuché à domicile juste avant de négocier le tour de Ligue des Champions. Je pense que avant même le match retour, toutes les pensées du Wydad sont focalisées sur la suite du championnat. Il reste encore beaucoup de matchs très importants. Ils vont affronter les trois équipes du podium qui les précèdent et ils sont complètement à fond dans l'opération remontée et nul doute que le Tunisien Faouzi Benzarti, qui a un management qui laisse pas trop de place à la fantaisie ni aux blagues, que la remontée est dans toutes les têtes.
Très bien. La remontée en championnat, mais comme tu le dis, leur parcours est un petit peu chaotique depuis le titre en Ligue des Champions. Est-ce que du coup on peut penser que le Wydad est un véritable candidat à sa propre succession ou ça risque d'être compliqué?
Oui, parce que la dynamique s'est inversée avec l'arrivée de Faouzi Benzarti. Depuis qu'il est arrivé, ils ont empilé les victoires. Il apporte une certaine exigence sur beaucoup d'aspects, aussi bien sur la tactique que sur la manière d'aborder les matchs, que sur beaucoup de routines qui entourent de manière générale les stages et la préparation des matchs. C'est un méticuleux qui prône la discipline, qui bosse avec un groupe très restreint et qui le fait bosser sur le plan physique jusqu'à ce qu'il soit complètement cramé. Généralement, quand il en a fini avec un groupe, ils font deux saisons magnifiques et puis après, physiquement, ça tire parce qu'il fait quasiment pas de turnover. Là, malgré tout, même si on sait que son mode de management peut pas être viable sur le long terme, il a renversé la vapeur depuis qu'il est arrivé. Et là, ils sont sur une bonne dynamique.
D'accord. Même si on va en parler après avec Pierre-Marie, un petit mot peut-être sur l'autre club marocain qui s'est qualifié en créant l'exploit, le Difa El Jadida, en créant l'exploit d'éliminer l'équipe congolaise de l'AS Vita.
Exactement. Ils avaient bien tenu à l'aller en empêchant l'AS Vita de marquer un but à l'extérieur. Ils avaient glané une belle victoire 1-0. On pouvait craindre le pire quand ils ont encaissé le premier but à Kinshasa, mais c'est l'attaquant Haddad qui a réussi à mettre le but, qui a complètement mis l'AS Vita dans le doute. À partir du moment où après l'AS Vita s'est rué à l'attaque, les espaces pour le club marocain étaient à disposition pour pouvoir frapper une autre fois. Leur Tanzanien Simon Msuwa, qui est en super forme, est à l'origine du deuxième but. Ils ont quand même fait un sacré coup. C'était pas gagné sur le papier, mais c'est quand même un sacré coup d'envoyer l'AS Vita en Coupe de la CAF.
Et d'ailleurs, bah, c'est justement de Simon Msuwa que Pierre-Marie vous dressera le portrait dans quelques minutes.
Eh bien, sacré joueur.
Sacré joueur, tout à fait, le Tanzanien. Passons, ma foi, au voisin algérien, puisque le voisin algérien a qualifié deux équipes, le Mouloudia d'Alger et le SC Tif. Commençons, pourquoi pas, par le Mouloudia, qui se qualifie aux dépens du MFMF, j'ai rajouté un petit F de trop, du MFM nigérian, un match qui a priori n'était pas forcément une mince affaire, mais qui finalement a abouti sur un match retour sans surprise, 6-0 pour Alger.
Exactement, le Mouloudia d'Alger de Bernard Casoni fait un début d'année 2018 vraiment de très bonne facture. Après avoir collé 9-0 aux Camerounais d'Auto au tour précédent, match que les Camerounais n'avaient pas terminé parce qu'ils étaient transis de froid, après deux matchs à domicile où, si je dis pas de bêtises, le Mouloudia a collé 7 buts et encaissé aucun, là c'est les Nigérians de Mountain of Fire and Miracles qui ont pris une sacrée tannée au 5 juillet, au stade 5 juillet. D'après les déclarations de Bernard Casoni, le fait que l'équipe a été privée de pas mal de joueurs au Nigeria a causé un petit peu cette défaite. D'ailleurs, soit dit en passant, c'est la deuxième fois en consécutive que le MC Alger s'incline à l'extérieur. Il y a encore un léger problème sur les déplacements en Afrique subsaharienne où, d'après les dires du coach, les joueurs souffrent quand même encore pas mal de la chaleur. Mais une fois à domicile, les joueurs sont intraitables et particulièrement l'attaquant Hicham Nakash qui en est déjà à 6 buts en Ligue des Champions en 4 matchs. C'est un attaquant qui est plutôt jeune, il a 27 ans, en constante progression sur ses statistiques. Là, actuellement, toutes compétitions confondues, il peut monter potentiellement à entre 20 et 25 buts par saison. Son arrivée au Mouloudia d'Alger lui a vraiment permis d'être à la plénitude de ses moyens. Mais malgré tout, malgré les bons résultats, le fait que le Mouloudia d'Alger a un groupe assez solide qui a appris de l'élimination en Coupe de la CAF l'année dernière, ils étaient arrivés en quart de finale, ils avaient été éliminés par les Tunisiens du club africain. Malgré le fait qu'ils aient un gardien qui est revenu en forme, je pense que le nom va t'inspirer quelques petits souvenirs, le fondu du bocal qu'on appelle Fawzi Chaouchi, l'ex-gardien de but de la sélection algérienne. Casoni a quand même affirmé qu'il manque quelques talents individuels pour pouvoir briller en Ligue des Champions. Et là encore, de même que pour le coach Del Ali, cette déclaration dans les médias algériens est aussi une manière de dire aux responsables du club, n'hésitez pas à me signer 2-3 mecs pour qu'on puisse être compétitif au maximum pour la phase de poule de Ligue des Champions.
Ma foi, peut-être, pourquoi pas imaginer des retours des arrivées de binationaux, comme l'ont fait les clubs tunisiens et marocains. Nous l'avions évoqué dans je crois que c'était le premier Efrika. Tu as parlé de Hicham Nakash, qui est en effet le meilleur buteur aujourd'hui de la compétition de cette Ligue des Champions avec 6 buts. Première place qu'il partage avec, tu en as parlé aussi, Hamid Haddad, l'attaquant de El Jadida. Et pour terminer sur ce match, je rappelle à nos auditeurs que le Ministry Ministry Magical Fantastic Football de Nigeria, c'est cette fameuse équipe dont nous avions parlé également dans un autre Africa sur le Nigeria avec Pierre-Marie Gosselin, cette fameuse équipe nigérienne tenue et dirigée par des évangélistes ou des baptistes, je ne sais plus, enfin ça reste des évangélistes, tu me diras.
Personnellement, si j'étais supporter d'une équipe qui s'appelle la Montagne du Feu et des Miracles, je sentirais le pouvoir du divin à chaque match, quoi. C'est quand même un nom classe, il faut le dire.
C'est ça, j'avais oublié le nom, c'est Mountain Fire and Miracles. Tout est dit, tout est, comme tu le dis, la lumière semble s'abattre sur cette équipe. Malheureusement, la lumière s'est éteinte au match retour contre les Algérois. Là, et bien pour terminer ce point Maghreb sur ces équipes maghrébines, terminons avec le dernier qualifié algérien, le second qualifié algérien, qui est donc le S Sétif, qui s'est défait de l'Adouana Star ghanéen, un petit peu sur un schéma similaire que le Mouloudia, c'est-à-dire en s'inclinant à l'aller 1-0 et en collant un bon vieux 4-0 aux Ghanéens au retour à Sétif.
Avant le match retour à Sétif qui était à huis clos, on pouvait penser que l'entraîneur de l'ES Sétif, qui est Abdelhak Benchira qui est l'ancien sélectionneur de l'Algérie et qui avait remporté un titre de champion en Tunisie avec le club africain, on pensait qu'il était un petit peu en sursis parce que depuis son arrivée en décembre à la place de Madoui qui est parti en Tunisie à l'Étoile du Sahel, le style de l'équipe a un petit peu changé. La saison à la base en championnat était déjà chaotique, ça s'est un petit peu poursuivi avec Benchira. L'équipe stagne au milieu du tableau, a beaucoup de mal à se rapprocher du podium. Et là, l'enchaînement défaite au Ghana 1-0 et défaite contre l'USM Alger 3-2 qui réduit les chances de l'ES Sétif de se rapprocher du podium avait un petit peu mis Benchira dans une mauvaise situation. En plus, pour ce qui est du style, ça n'a jamais été un entraîneur qui fait bien jouer ses équipes. Certes, elles sont disciplinées tactiquement. Pour ce qui est du respect des consignes, de rester bien en place, etc., il sait transmettre ça aux joueurs. C'est un peu comme ça aussi qu'il avait gagné le titre en Tunisie avec le club africain. Enfin, un mélange de disciplines avec des talents au poste qu'il faut. Mais avec le Sétif, la sauce ne prend pas. L'ailier algérien Djanit, qui littéralement volait lors de la victoire du Sétif en Ligue des Champions en 2014, est un peu loin du niveau qu'il avait à cette époque-là. Et cette qualification sonne un petit peu comme un sursis un peu pour Benchira, mais ça ne couvrira que partiellement cette saison en championnat qui a été plutôt chaotique.
Très bien, Farouk. Eh ben, c'était top. Je te propose de se retrouver pour faire le point, pour faire une sorte de petit guide à nos auditeurs pour les matchs de poule qui, on ne vous dit rien, hein, mais qui ont été tirés à l'heure où on enregistre, mais ce n'est pas le sujet. On se le garde pour la prochaine fois. Eh bien, ma foi, est-ce qu'on se retrouve pour faire un petit point là-dessus, pour en parler ?
D'une part, on se régale d'avance rien que d'y penser. Et on est assez impatient de voir ce que ça va donner, mais bien sûr, on se retrouve pour décrypter ça la prochaine fois avec grand plaisir.
Décrypter, c'est exactement le terme que je recherchais. Merci beaucoup, Farouk. Ciao.
Merci beaucoup.
Traversons maintenant le Sahara, descendons le Nil et ses cataractes et passons aux autres qualifiés de cette Ligue des Champions africaine sans plus attendre. Yari. Sarubi Bembi Wulamaya. Africa.
Et nous poursuivons donc notre débrief de cette phase, cette dernière phase préliminaire de la Ligue des Champions d'Afrique, la C1 d'Afrique, en partant un petit peu plus au sud du Sahara, donc après avoir fait un petit peu parler des clubs maghrébins, là on va parler un petit peu du reste de l'Afrique, de l'Afrique subsaharienne et l'Afrique, voilà, Afrique subsaharienne, l'Afrique du Sud, l'Afrique, voilà. Le reste de l'Afrique autre que Maghreb, spécialité de monsieur Pierre-Marie Gosselin. Comment vas-tu, PM ?
Bon, ça va très bien. Toujours à Paris, malheureusement, toujours loin de mes joueurs d'Abisport, mais je tiens le coup, puis le soleil est en train de revenir et pourquoi pas le printemps même. Donc, voilà, je tiens le coup.
Tout va bien du côté d'Abisport, ça gagne des petits tournois.
Alors, écoute, ça va. Là, on a les plus grands qui sont en train de se préparer pour le championnat de 3e division, puisqu'ils sont montés en 3e division cette année. Écoute, normalement, c'était censé recommencer début mars. Ça a déjà été repoussé, en espérant que ce soit pas repoussé trop longtemps et qu'ils commencent la compète assez rapidement. Et pour les plus jeunes, là, pour l'instant, pas de tournoi en vue. Ils se préparent, ils s'entraînent, ils jouent des matchs amicaux le week-end.
On rappelle que l'Abisport est un club béninois de Cotonou dans lequel tu es plus qu'engagé, voilà, et tu as hâte de retrouver ton club béninois de cœur. On est parti pour débriefer donc les performances des clubs subsahariens, hein, de l'Afrique subsaharienne globale, hein, parce que si je dis subsaharienne, mais quand on pense subsaharien, évidemment, on pense que Mali, etc., Afrique de l'Ouest, mais dans ton cas, alors là, tu t'étends, voilà, tout ce qui est au sud, ton empire est gigantesque, tout ce qui est au sud du Sahara. Et tu voulais commencer par nous parler de quatre clubs pour qui cette qualification en phase de groupe est une première. Il s'agit d'Embaban du Swaziland, des Embaban Swallows, il s'agit du KCCA d'Ouganda, dont on avait parlé la dernière fois, l'équipe de Kampala, des Township Rollers du Botswana, dont on avait aussi parlé la dernière fois, et du Difa El Jadida du Maroc. Alors, bon, là, on retombe dans le domaine de Farouk, hein, du Maghreb, mais tu voulais nous en parler parce que tu voulais nous parler de leur avant-centre, le Tanzanien Simon Msuva, voilà, dont tu voulais nous parler. Ben, je te propose de commencer par ce joueur.
Eh ben, avec grand plaisir. T'as vu, je t'avais préparé une transition tout en douceur, voilà, pour partir du Maghreb avec un joueur tanzanien pour migrer vers le sud. Et écoute, ça va être c'est l'occasion de le mettre en joueur. C'est Simon Msuva, de son vrai patronyme officiel Simon Happy God Msuva. Donc voilà, je crois qu'on avait déjà eu l'occasion de le mentionner par le passé. Donc il a été très actif dans la qualification de son équipe pour la phase de poule, puisqu'il a été l'unique buteur du match aller et il a assuré la qualification au retour en délivrant une passe décisive à la fin des arrêts de jeu à son coéquipier Ayoub Nana. Alors ce joueur tanzanien, il a 24 ans, il vient d'arriver au Maroc, hein, il a été transféré en fin de saison dernière de son club tanzanien, les Young Africans, Yanga, avec qui il a gagné 4 titre de champion. C'est un joueur qui, bon, malgré son jeune âge, a déjà 43 sélections au compteur, ce qui est plutôt pas mal, hein. Je rappelle qu'il n'a que 24 ans. C'est un joueur qui a été formé à l'académie de Azam. Il n'a pas joué au club et c'est un des premiers, en fait, c'est un des premiers joueurs de l'académie de Azam qui est devenu pro. Et bon, malheureusement pour lui, il est devenu pro dans un club ennemi de Yanga. Mais bon, au final, ce qui est important, c'est la réussite du joueur. Si je vous parle de lui, hein, c'est pas parce que uniquement il est tanzanien, mais parce qu'il fait un début de saison, en plus d'avoir qualifié son équipe, il fait un début de saison relativement intéressant pour une première expérience hors de son pays, dans un contexte complètement différent au Maghreb, avec une langue qui change, avec, j'imagine, un style de jeu et des méthodes d'entraînement qui sont différentes. Et 16 matchs de championnat pour lui déjà cette année, 6 buts, 2 passes décisives, et en Ligue des Champions, il en est déjà à 4 buts et 2 passes en 4 matchs. Voilà, c'est des stats qui sont très flatteuses. Faut savoir qu'il est assez polyvalent. Il peut jouer sur tous les fronts de l'attaque. Il est même, je pense, davantage utilisé. Il est même davantage utilisé du côté d'El Jadida sur les ailes, que ce soit à gauche ou à droite, hein, vu que bon, c'est un droitier. Donc c'est vrai que maintenant les droitiers, on les met facilement à gauche pour qu'ils repiquent sur leur pied fort. Et lui, voilà, il en est sa première année. J'imagine qu'elle risque d'attiser les convoitises et ce serait pas étonnant que peut-être dès même la fin de cette saison, il rejoigne un club plus huppé au Maroc ou même qu'il quitte l'Afrique du Nord. Et puis d'autant plus qu'il forme un duo d'attaque plutôt efficace avec un jeune Marocain, Hamid Haddad. Et voilà, c'est un duo qui fait des étincelles et je pense que c'est un duo qui devrait permettre au Difa El Jadida d'être plus qu'un novice, enfin disons, d'outrepasser son statut de novice dans la phase de poule et de déranger les équipes qui auront la malchance de tomber contre eux.
De déranger les grosses équipes comme elle l'a fait déjà pour se qualifier, puisque Difa El Jadidad, qui était donc, tu l'as rappelé, un novice, s'est qualifié pour cette phase de groupe aux dépens de l'AS Vita de République démocratique du Congo, qui est pour le coup un classique, un habitué de la compétition. Donc c'était déjà une surprise. Et des surprises, il y en a eu dans cette phase, cette dernière phase de qualification. Par exemple, voilà, là j'en ai une sous les yeux, la qualification de l'équipe Swazi de Mbaban Swallows aux dépens du Zanaco.
Ouais.
Zanaco de Zambie, je le rappelle.
Et l'équipe de Mbabane, on dit Mbabane, qui est la capitale du Swaziland. Hein, juste pour que les gens repèrent, parce que c'est vrai que Swaziland, peut-être que ça parle de nom, mais pour le situer, c'est un petit royaume, j'ai bien dit royaume, hein, donc qui est dirigé par le roi Mswati III. Et c'est un petit royaume qui est bloqué entre le Mozambique et l'Afrique du Sud, tout petit, parce que du nord au sud, ça dépasse pas 200 km et d'est en ouest, ça dépasse pas 130. Donc voilà, c'est vraiment un tout petit pays. L'année passée, ils étaient en phase de poule de la Coupe de la Confédération. Alors ça, c'était pas ça, ils étaient dans un groupe un petit peu compliqué, donc notamment avec le CS Faxien, mais ils s'en sont sortis avec juste une petite victoire, voilà, pour la route, pour apprendre. Et là, c'est vrai qu'en tombant sur le club zambien de Zanaco, ben, je donnais pas cher de leur peau. Et puis finalement, ben, ils se qualifient avec deux victoires, 2-1, 1-0. Donc ce n'est pas un mince exploit. Et c'est un exploit encore moins mince quand vous allez entendre la suite de ce que je vais vous raconter. Parce que figurez-vous que cette équipe de Mbabane Swallows a perdu deux de ses dirigeants depuis le mois de mai dernier. Le premier, c'était Sibu Sisso Manana, qui n'était autre que leur directeur exécutif. Alors, un directeur exécutif dans un club de foot, ben, c'est un organe essentiel, puisque c'est lui qui est là pour gérer toute la partie exécutive, donc que ce soit de l'administratif, du sportif, c'est lui qui est chargé que tout soit fait. Et il est décédé là juste avant un match, pendant un briefing avec les médias au mois de mai dernier en championnat du Swaziland. Voilà, mais ils ont su surmonter ça et poursuivre pour aller jusqu'à se qualifier pour la Ligue des Champions, pour les tours préliminaires en tout cas. Et début janvier, le 14 janvier, tout dernièrement, eh ben c'est leur président qui est décédé, Victor Gamedze, qui s'est fait, qui s'est tout simplement fait abattre dans une station-service du Swaziland. Et figurez-vous qu'il s'est fait abattre par un de ses concurrents, le président du club de Mustapha United, Sifo Shongwe. Alors, ce sont deux hommes d'affaires, voilà, qui sont deux personnes influentes de leur football. Et voilà, donc Sifo Shangwe a été accusé, a été jugé pour le meurtre de Victor Gamedze. Et ben voilà, donc c'est avant même de commencer la compétition, ils se sont retrouvés sans président, qui est un président actif, qui est vice-président de la fédération, donc qui est vraiment le personnage d'influence du club de Mbabane et de Mbabane Swallows. Et ben voilà, malgré ces deux pertes incroyables, le club a réussi de se qualifier pour la première fois de son histoire et pour la première fois de l'histoire d'un club du Swaziland en phase de poule de la Ligue des Champions. Alors je dis que ça risque d'être difficile, je pense pas qu'ils soient en mesure de pouvoir être aussi dangereux que Difa El Jadida, mais voilà, ils ont au moins le mérite d'être là, et puis ils peuvent déjà se vanter d'avoir sorti de Zanaco, ce qui est un super exploit. Et puis pour eux, c'est une entrée d'argent, parce que rentrer en phase de poule, c'est la garantie de pouvoir jouer 6 matchs. Et donc voilà, donc c'était l'occasion de parler de ça, et puis l'occasion aussi de rendre hommage à leurs dirigeants qui sont décédés dans des conditions un petit peu tragiques, notamment pour le président. Et voilà.
Oui, une raison d'ailleurs aussi d'évoquer le football au Swaziland, qui n'est pas une mince affaire. Hein. On entend rarement parler de football Swazi ou de club Swazi ou même du football dans ce petit pays qui est une sorte, tu l'as dit, d'enclave en Afrique du Sud, même si c'est pas comme le Lesotho, hein. Il n'est pas entièrement dans l'Afrique du Sud, il a aussi une frontière avec le Mozambique. Il n'est pas loin de Maputo, d'ailleurs, de la capitale du Mozambique. Enfin bref. Et puis surtout, oui, on peut aussi penser qu'il a réussi, ce club, ce groupe a réussi à surmonter ces deux pertes tragiques. Mais parfois aussi, c'est quelque chose qui soude un groupe et qui peut permettre de l'emmener plus loin que ce qu'il n'aurait dû faire potentiellement. En tout cas, bravo à eux. Et puis, comme tu l'as dit, c'est une super première. Maintenant, pour eux, c'est que du bonus. Voilà, ils vont. Ça va être une super expérience que cette phase de groupe pour cette première du club swazilandais, en phase de groupe de Ligue des Champions. Ensuite, on va revenir sur deux clubs dont on avait déjà évoqué l'histoire la dernière fois, dans le dernier Efrika, en l'occurrence le Township Rollers du Botswana et Botswana et le KCCA de Kampala en Ouganda. À commencer par le Township Rollers, disculpa si je le dis en portugais, ça va pas le faire. que j'avais Township Rollers parce que dont j'avais déjà eu du mal à prononcer le nom la dernière fois. Et dans ce cas-ci, tu voulais approfondir ce qu'on avait dit sur ce club la dernière fois en nous parlant de son coach Nikolaj Kovačević, que j'imagine est d'origine yougoslave, enfin des pays d'ancienne Yougoslavie, balkanique, voilà.
Ouais, tu vises juste, hein, c'est un yougoslave puisqu'il est assez vieux, mais c'est un serbe hein, puisqu'il est né du côté de Belgrade, donc aujourd'hui il a la nationalité serbe. Effectivement, j'avais envie de me pencher sur son parcours parce que c'est vrai que lorsqu'on regarde, moi j'ai été pris un petit peu d'affection, vous avez pu vous en apercevoir lors de la présentation lors du podcast précédent. C'est vrai que cette équipe de Township Rollers m'impressionne et me surprend par son approche très moderne du foot et puis leur ambition qui ne masque pas malgré au final une certaine jeunesse, même si c'est un club qui existe depuis un petit moment. Voilà, ils ont pas non plus trop gagné à l'international. Et moi, personnellement, je n'en avais pas entendu parler jusqu'à l'année dernière. Donc, c'est vrai que je me suis mis à suivre un petit peu leurs matchs. Et leur coach dégage quelque chose d'assez incroyable. Donc, je me suis un peu approfondi sur son parcours pour essayer de comprendre un petit peu ce qui peut porter ses caractéristiques, parce que moi, il me fait beaucoup penser à Hervé Renard du côté de la Zambie en 2012, lorsqu'ils ont gagné la CAN. On sent qu'il y a une unité, on sent qu'il y a un respect, on sent qu'il y a vraiment une osmose qui se passe entre ce coach voilà venu de très loin et toute la population de son club, parce que c'est aussi bien les supporters, les joueurs que ses dirigeants. On sent vraiment que tout ce petit beau monde est uni. Et j'ai essayé de m'en approfondir pour comprendre un petit peu pourquoi. Et Nikolaj Kovačević, c'était à la base un joueur qui était international dans les catégories de jeunes, à l'époque où c'était encore la Yougoslavie, mais qui a été très rapidement stoppé par les blessures. Et il a mis un terme à sa carrière à peine commencée, puisqu'il s'est blessé, je crois, à l'âge de 19 ans au genou, et qu'en revenant de blessure, il a fait de la deuxième division et il s'est rapidement aperçu que ça ne correspondait pas à ses attentes. Donc il a stoppé pour étudier le droit et coacher. Et il s'est mis à coacher des jeunes très rapidement. Après une petite expérience chez lui, il a pris la direction de l'Asie. Mais de l'Asie, pas forcément de l'Asie de lucarne opposée, de la Corée, du Japon, de la Chine ou de l'Asie qui brille en Ligue des Champions AFC, mais plutôt de la deuxième division asiatique, puisqu'il est parti au Tadjikistan. D'abord dans un club, puis il a pris la sélection. Après, il est parti du côté du Sri Lanka, où il a pris la sélection, il a poursuivi aux Maldives, où là, par contre, il s'est occupé d'un club, puis il s'est laissé tenter par le Laos, et enfin, pour finir en Asie avec le Bangladesh. Pour lui, donc c'est des qualifications en Ligue des Champions AFC, il y a des titres de champion notamment aux Maldives, notamment au Tadjikistan. C'est à partir de là une expérience africaine où il a décidé de partir au Botswana et de répondre favorablement à l'appel de Township Rollers. Et on sent, je pense, que cette touche un petit peu de managérial, voilà, qu'il apporte, parce que disons qu'il est allé chercher au-delà de son expérience de joueur de foot, puisqu'il a pris le temps quand même d'étudier, puis il s'est ouvert à des cultures, il est parti seul, il s'est ouvert à des pays qui ne sont pas forcément des pays des grands pays de football, un petit peu comme la Zambie de Hervé Renard à l'époque. Alors bien sûr, la Zambie est quand même un passé très glorieux, ils avaient failli se qualifier à la Coupe du Monde avant que leur équipe ne disparaisse tragiquement, de l'équipe nationale ne disparaisse tragiquement dans un accident d'avion. Et donc, si tu veux, voilà, ce mélange de management et cette unité qu'il arrive à créer dans ce club, c'est assez incroyable. Il n'y a qu'à voir son émotion après la qualification, il n'y a qu'à voir son sérieux pendant les prières, il n'y a qu'à voir l'attention qu'il met en conférence de presse, à ne pas froisser les journalistes, etc. Parce qu'on sait que les journalistes africains sont très taquins souvent. Et lui, il arrive à gérer tout ça avec une main de maître. Et pourtant, je vais te dire le contexte à quel point il était difficile pour lui, parce que quand il est arrivé en juillet dernier, on lui a demandé de se qualifier pour la phase de groupe de la Ligue des Champions. Qui pouvait imaginer à ce moment-là, il y a 6 mois en arrière, que son équipe aurait été en mesure de se qualifier, sachant qu'on ne connaissait même pas le tirage au sort. Vous allez voir un petit peu plus tard, mais s'il tombe contre un club d'Afrique du Nord, la qualification aurait été trop très compliquée. Enfin, c'était pour ne pas dire impossible. Et ben finalement, malgré ça, il a cru en ça, il a cru en ses compétences, il s'est appuyé sur ce qu'il aime. Il le dit lui-même, hein, c'est la patience, le travail avec le cœur et la passion qui sont ses principes, et les principes qui lui ont permis de réussir en Asie, les principes qu'il a voulu étendre en Afrique. Et ben voilà, 27 matchs pour lui, 19 victoires, 6 matchs nuls, 2 défaites, 52 buts marqués pour seulement 25 encaissés. Ça fait presque 3 buts par match de moyenne. Il a déjà remporté un premier trophée, puisqu'il a remporté la Coupe du Botswana. Donc voilà, moi, ça me fait penser un peu à un jeune Hervé Renard. Il ne faudrait pas être surpris si on le retrouve en sélection dans les mois. Alors, tu me poses une petite colle. Je crois qu'il est autour de la quarantaine.
Oui, donc c'est un jeune entraîneur encore. En tout cas, ouais. Oui, en tout cas, c'est un bel exploit de la part de Nikolaj Kavazovic. D'autant plus que les Township Rollers, bon, si leur duel face aux Young Africans était, on l'avait dit, relativement équilibré pour ce dernier tour, les Botswanais avaient réalisé un véritable exploit au tour précédent en sortant les Soudanais d'Almeric, un très gros club du continent africain.
Je te propose 42 ans. Hein.
42 ans, oui, donc voilà, à cet âge-là, il y en a qui finissent leur carrière. Bon, c'est généralement des dinosaures, mais voilà, on pense à Zé Roberto qui a terminé à 43 ans. Je te propose de continuer et du coup de terminer donc ces quatre clubs qui vont faire leur première entrée en phase de poule de leur histoire par le KCCA, le club ougandais de Kampala, dont on avait... je l'ai déjà assez dit, parler lors du dernier Efrika. Et cette fois-ci, tu voulais parler du KCCA pour soulever un point ou une problématique, c'est celle du choix des stades et des horaires pour ces matchs de qualification. D'ailleurs, tu vas prendre le KCCA comme exemple, mais tu m'as confié que ça s'appliquait à d'autres équipes, comme par exemple le Plateau United, le club nigérian dont on avait aussi parlé dans un autre podcast.
Ouais, exactement. En fait, ça a commencé, j'ai regardé le match, du coup le match retour, hein, joué contre les Éthiopiens de Saint-Georges. Ils avaient fait 0-0 à l'aller. Et pour le match retour, j'ai suivi ça sur un stream éthiopien. Et franchement, la manière dont c'est filmé, c'était assez désastreux. Les caméras étaient tellement basses dans le stade qu'on n'avait aucune perspective, on avait très peu de hauteur. C'était franchement, télévisuellement, c'était très très difficile à suivre ce match-là. Et du coup, je me suis demandé pourquoi, comment ça se fait qu'ils jouent dans un aussi petit stade avec une tribune, qui est l'équivalent d'une tribune d'un stade, je sais pas, de district en France, quoi. Un petit club de district, quoi, dans un petit village de, pourquoi pas du fin fond de l'Auvergne. et je me demande, mais comment on peut jouer un match de Ligue des Champions dans de telles conditions? Surtout qu'à côté de ça, j'avais lu que l'équipe des Nigériens de Plateau United, donc ils recevaient l'étoile sportive du Sahel, ils avaient perdu 4-2 au match aller, et pour le match retour, ils n'ont pas joué dans leur petit stade de Jos, et ils ont dû se délocaliser à Kano. Donc forcément, ça pose problème puisqu'on joue pas devant son public. Les conditions de jeu ne sont pas forcément celles qui sont les plus favorables pour l'équipe. Et voilà, comme on dit chez nous en Coupe de France, avec le petit poussé, voilà, il joue dans son stade, les terrains sont pas bons et ça permet de niveler le niveau, etc. Voilà, donc c'est une problématique. Je me demandais aussi pourquoi, par exemple, le club gabonais de CF Mounana, qui jouait contre Al Ahly, joue à Libreville, alors que c'est un club de Mounana, donc une petite ville située au Gabon forestier. Et il joue dans un immense stade vide. C'est la même chose pour l'ASEC d'Abidjan, qui va jouer au stade Oufouette Boigny, qui est désespérément vide. Et alors, je me suis lancé dans le règlement de la CAF pour essayer de comprendre pourquoi cette équipe de KCCA a pu jouer dans un tout petit stade avec même pas des tribunes. Enfin, je vous invite à aller essayer de regarder des images. C'est assez incroyable, quoi. C'est vraiment un tout petit terrain. Et à côté de ça, ben, il y en a d'autres qui vont jouer dans des grands stades vides et peut-être qui se privent d'ingrédients pour pouvoir inverser une situation contre un adversaire qui peut être supérieur. Et ben, alors, figure-toi que la CAF n'impose rien. Pour les premiers tours, en tout cas pour les tours de barrage jusqu'à la phase de poule, vous pouvez jouer dans le stade que vous voulez. Il faut seulement que ce soit une pelouse synthétique ou une pelouse naturelle. Par contre, la distance entre la capitale et la ville où se joue le match est à la charge de la fédération qui accueille la rencontre. Donc voilà, si c'est une distance supérieure à 200 km, ils sont obligés de proposer un déplacement en avion à la délégation. Si la délégation ne peut pas venir en avion, ils ne peuvent pas jouer dans la ville, ils sont obligés de jouer dans la capitale ou dans une ville accessible en avion. Donc déjà, ça peut être un premier frein économique lié à la fédération qui n'a pas envie d'avoir une ardoise. Voilà, par exemple, je pense au Gabon, ils n'ont pas envie de payer le déplacement de Libreville à Mounana, donc ils font jouer les matchs à Libreville, sachant que la réglementation oblige à partir de la phase de poule à jouer dans le plus grand stade de la ville ou du pays. Donc si c'est une grande ville, plus grand stade de la ville. S'il n'y a pas de grand stade dans la ville, on va jouer dans le stade de la capitale. Donc c'est un peu surprenant que certaines équipes dans cette phase justement de tour préliminaire et de premier tour où c'est des matchs aller-retour ne profitent pas davantage de ces guet-apens qui peuvent tendre à leurs adversaires. J'ai lu des supporters de Plateau United qui disaient que voilà, si on avait joué notre match à Jos chez nous dans notre stade, on aurait pu renverser les Tunisiens. C'est assez intéressant parce que au final, peut-être que pour des raisons économiques, certaines fédérations se privent d'envoyer des matchs de Ligue des Champions dans les villes des clubs. Donc c'est un petit peu surprenant quelque part. Et il faut savoir qu'à partir de la phase de poule, et des demi-finales, à partir de maintenant, tous les matchs vont se jouer dans de grands stades de manière à pouvoir être bien télévisés et que le rendu soit bon. Et en ce qui concerne les horaires, c'est également la fédération qui fixe les matchs. C'est eux qui doivent dire quelle est leur préférence entre le vendredi, le samedi et le dimanche. Et ils doivent jouer entre 14h et 22h. Donc là, voilà, le gap est vraiment très large. Donc au final, moi, je disais que c'était peut-être la faute de la CAF si les stades n'étaient pas remplis parce que les horaires ne permettent pas forcément au public de pouvoir se rendre au stade. Je pensais notamment du côté de Dar es Salaam où on avait joué un match à 14h, justement Young African contre Tonchit Prowlers, alors que peut-être qu'en jouant le match à 17h, comme ça arrive souvent en Tanzanie, ça aurait permis aux gens, une fois le travail terminé, de pouvoir aller au stade. Donc voilà, c'était aussi me permettre de me pardonner des propos que j'ai pu tenir envers la CAF en les accusant de stade vide en Ligue des Champions, alors que en fait les responsabilités sont largement partagées et les fédérations sont également responsables. Voilà.
Très bien. Ben écoute, j'espère que ton message sera entendu. Peut-être que nous sommes écoutés par des hauts membres de la CAF, qui sait. Pour terminer, tu voulais aborder un point ou plutôt pointer du doigt une défaillance, celle des clubs d'Afrique de l'Ouest et de l'Est, qui n'ont qualifié pour cette phase de groupe de Ligue des Champions que 3 équipes sur 16, en l'occurrence donc le Oroya de Guinée, le Togo Port du Togo, le Zesco United de Zambie, et on pourrait rajouter un quatrième avec l'Ouganda, avec le KCCA, l'Ouganda étant un petit peu à l'est, c'est un peu au sud-est, mais un peu à l'est quand même, enfin voilà.
En fait, l'Ouganda rentre dans l'Afrique de l'Est, alors que la Zambie, elle, est en Afrique australe. Il y a plusieurs régions, hein, donc t'as la Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique du Nord, Afrique de l'Est et Afrique australe. Et la Zambie rentre dans l'Afrique australe. Donc le
Ah d'accord. Donc les trois, donc c'est donc Togo Port, Oroya et KCCA.
Exactement.
D'accord.
Pas de Zesco. Zesco fait la.
Je mettais la Zambie un peu plus haut, mais c'est exact, c'est beaucoup plus.
C'est un peu plus bas. C'est la Zambie, si tu veux, la frontière entre la zone de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe, et c'est la RDC, et la Zambie est frontière de la RDC, donc ils sont côté sud, donc côté austral. Juste pour que ça parle à tout le monde, l'Afrique australe, ils ont qualifié 5 pays sur 8 participants, l'Afrique du Nord, 7 sur 7, donc l'Afrique centrale, 1 sur 3, l'Afrique de l'Est, 1 sur 6, et l'Afrique de l'Ouest, 2 sur 8. Donc si on réunit l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est en allant de Conakry jusqu'à…
L'Afrique centrale, c'est le TP Mazembe.
L'Afrique centrale, c'est TP Mazembe, exact. Et si on va, et du coup, ça fait 3 équipes sur 16. C'est un ratio qui est complètement ahurissant. Surtout qu'habituellement, ce sont ces régions-là qui, pour l'Afrique subsaharienne, ce sont plutôt l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest qui fournissent en club, puisque l'Afrique de l'Est, il y a quand même les clubs soudanais qu'il faut prendre en charge à l'intérieur. Habituellement, le Soudan, c'est 2 qualifiés, et puis c'est les Éthiopiens, les Kenyans, etc., qui viennent compléter autour. Et pour l'Afrique de l'Ouest, je vais te donner la liste des pays. Le champion du Ghana, Adouana Star, éliminé. Champion de Côte d'Ivoire, ASEC, éliminé. Champion du Nigeria, Plateau United, et le deuxième du Nigeria, MFM, éliminé. Champion du Sénégal, Génération Foot, éliminé. Les Maliens, eux, ils sont carrément sortis au tour précédent. Il a fallu compter sur un exploit des Togolais contre le Al Hilal, qui est peut-être le plus gros exploit de ce tour-là, pour que l'Afrique de l'Ouest ne s'en sorte pas avec un seul représentant. Et encore, ils étaient obligés puisque le Oroya jouait contre les Sénégalais de Génération Foot. Donc, c'est vraiment inquiétant. À quoi c'est dû? Difficile à comprendre. On peut trouver plusieurs explications. Du côté du Mali, par exemple, la qualification s'est faite dans un climat complètement abracabrantesque. On en avait parlé un petit peu puisque les clubs ont été sélectionnés par la fédération. Les Soudanais, eux, commencent à peine leur championnat quand la Ligue des Champions commence. Bon, les Ivoiriens, la SEC, ils arrivent quand même à remporter le match aller en Zambie 1-0 contre Zesco, qui est un super exploit, enfin qui est un exploit, on s'attendait pas, et finalement ils se font renverser au retour à domicile 2-0. Enfin, c'est quand même une élimination un petit peu honteuse. Bon, les Nigériens, ils ont pas eu de chance, ils sont tombés un tirage très difficile. Je pense qu'il faut une remise en question de ces régions-là. Ce n'est pas un hasard si l'Afrique australe a autant de représentants. Donc, on a donné deux exemples là avec. Township Rollers et Mbabane Swallows, c'est des clubs qui risquent de se pérenniser. Moi, je pense à Township Rollers. Township Rollers, l'année prochaine, on risque de le retrouver encore à ce stade de la compétition, et peut-être même dans 3, 4, 5 ans, tellement ils ont l'air de se bâtir dans une vision dans la durée. Donc là, l'Afrique australe, qui a la chance d'avoir l'Afrique du Sud comme modèle, avec Mamelodi Sundowns notamment, donc il y a une locomotive qui permet de tirer un petit peu tout le monde vers le haut, risque de poursuivre à envoyer de nombreux clubs, l'Afrique du Nord comme d'habitude, et ça commence à devenir inquiétant pour cette Afrique de l'Ouest et notamment l'Afrique de l'Ouest, parce que autant l'Afrique de l'Est a eu des oppositions entre elles et des matchs un peu difficiles, mais l'Afrique de l'Ouest, franchement, c'est surtout après les matchs aller, c'est assez inquiétant. Il faudrait une claire remise en question de la part des dirigeants de cette région-là pour faire quelque chose de bien, sachant que s'il y a une équipe qui a fait honneur à l'Afrique de l'Ouest dans ce premier tour, c'est Génération Foot, et les Générations Foot, c'est le centre de formation sénégalais, et pour preuve, ils ont réussi à remplir le stade Léopold Sédar Senghor, pratiquement 60 000 places pour un club qui n'est même pas dans la ville, qui est un centre de formation. C'est assez génial, et ça montre le travail qui reste à faire à tous les pays voisins pour essayer d'en arrêter avec la politique du football et commencer à se concentrer un petit peu ce qui se passe sur le terrain, nommer des coachs intéressants comme par exemple Tom Chip Rollers, s'appuyer sur des joueurs comme le Fedi Faljedida de qualité, essayer de prendre les recettes de ce qui marche pour en arrêter avec ce parce que c'est désespérant.
Beaucoup de travail donc pour ces deux régions, notamment donc tu as plutôt tendance à pointer du doigt l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, comme tu l'as dit, ils ont peut-être été défavorisés par son calendrier. C'est peut-être là d'ailleurs que la fédération, notamment soudanaise, doit travailler, puisqu'elle a perdu ses deux très grands représentants. On a dit Almeric renversé par le par le Township Warriors en première phase de qualification et donc le Al Hilal renversé par Togo Port en dernière phase de qualification. Deux équipes qui se sont fait surprendre alors qu'elles partaient largement favoris. Enfin, pour Township Rollers, j'aimerais terminer en effet en confirmant le fait que cette équipe est assez surprenante et que le football botswanais est assez surprenant et promet de belles choses, parce que c'est vrai qu'en tout cas du point de vue de la communication, du travail de communication de cette équipe de Township Rollers, je vous conseille d'aller sur leur Twitter, leur Facebook, leur site, etc. C'est très professionnel. Franchement, c'est voilà, on est devant un club qui semble en tout cas très très bien géré professionnellement, etc. Enfin voilà, c'est en effet, il dégage quelque chose de très inspirant pour la suite. C'est botswanais. Eh bien, merci beaucoup, Pierre-Marie.
Ben, écoute, c'est moi qui te remercie. Et puis, rendez-vous pour de nouvelles aventures. On attend le tirage au sort qui va arriver vite et savoir qu'est-ce qu'on pourra attendre de cette phase de poule, parce qu'au final, voilà, ça risque d'être très compliqué. Il y a beaucoup, beaucoup de grosses équipes et les matchs seront très, très serrés.
C'est ce que j'allais dire. On se retrouvera la prochaine fois pour débriefer un petit peu, pour faire le point sur les groupes de cette Ligue des Champions africaine, sachant qu'à l'heure où on enregistre avec Pierre-Marie, le tirage au sort n'aura lieu que dans quelques heures. On ne le connaît pas encore, mais ce n'était de toute façon pas le sujet du jour. Ciao Pierre-Marie.
Salut Simon, à bientôt.
Allez, on ne va pas se quitter comme ça. Les poules de cette Ligue des Champions 2018 sont désormais connues. Et les voici. Le groupe A est constitué du Al Ahly, de Township Rollers, du KCCA et de l'Espérance Tunis. Le groupe B du TP Mazembe, du Mouloudia d'Alger, du Difa El Jadida et de l'ES Sétif. Dans le groupe C s'affronteront le Togo Port, Mamelodi Sundowns, le Wydad Casablanca et le Oroya. Et enfin, dans le groupe D, on retrouve le Zesco United, Primero de Agosto, l'Étoile du Sahel et Mbaban Swallows. Un petit sort, non ? Merci à tous de nous avoir suivis pour cette 6e émission. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Et quant à moi, eh bien je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro des Frikas. Allez, salut les amis !